à l'emploi. 2 ans sans véritable interlocuteur, sans réponse, avec pour toute compagnie des centaines et des centaines d'offres de stage. Du cinéma, tout ça. Et justement, le cinéma. J'en ai un master 2. Seulement, je ne sais pas faire que ça, du cinéma. Je suis trilingue. J'ai voyagé. Je suis allée voir comment on se débrouillait ailleurs. J'ai aussi appris à travailler avec mes mains. Je suis allée voir dans la rue comment il se porte le marché de l'emploi. Je vais aller voir comment il répond à celles et ceux qui se présentent à lui avec leur ventre. J'ai 30 ans, je suis en colère, mais je ne m'avoue pas vaincue. Je vous tiens au courant et vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de ma sincère considération.
Aux amis poètes, naviguant sur ces ondes, je veux dire merci, merci, merci. Halte à la prosodie qui ici nous inonde. Vive la poésie, vive la poésie. Car en ces temps de crise et de pédagogie, je dis halte aux apothicaires et aux autres médecins qui de la vaseline font l'apologie pour introduire l'austérité dans mon fondement citoyen. Et même si cela ne rime à rien, vive la poésie, vive la poésie. C'était Paula.
Ayant quitté Paris, où malgré le printemps commençant, les arbres des boulevards étaient à peine pourvus de leurs premières feuilles, quand le train de ceinture nous arrêta, Saint-Louis et moi, dans le village de banlieue où habitait sa maîtresse, ce fut un émerveillement de voir chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs. C'était comme une défaite singulière, poétique, éphémère et locale, qu'on vient de très loin contempler à époque fixe, mais celle-là donnée par la nature. Les fleurs des cerisiers sont si étroitement collées aux branches, comme un blanc fourreau, que de loin, parmi les arbres qui n'étaient presque ni fleuris, ni feuillus, on aurait pu croire, par ce jour de soleil encore si froid, que c'était de la neige fondue qui était restée après les arbustes. Le côté de Guermantes, Marcel Proust.
Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous annoncer la création d'un nouveau café repère là-bas si j'y suis, à Poligny dans le Jura. Je vous donne rendez-vous au café Le Moka, 2 rue de l'Hôpital, le jeudi 23 février à 20h. À jeudi.
Bonjour, Bernard de Tarare. Un avis à tous les AMG de la région de Tarare dans le Rhône. Demain soir, réunion du repère, comme d'habitude, chez Mamie Coco. Ça se situe chemin Vergalant, tout près du magasin Dia. Voilà, c'est un petit salon de thé. Merci, au revoir.
Salut Daniel. Voilà, je voulais réagir à une info que j'ai entendue ce matin sur l'antenne de France Inter, à savoir l'histoire de ce jeune homme de 20 ans qui s'est fait sortir d'un concert de musique classique, parce qu'il manifestait son enthousiasme d'une autre manière que les autres spectateurs. Voilà. Et bien en fait, moi je suis maman d'une enfant polyhandicapée, et oui. Elle adore les spectacles, ma fille, elle aime la musique, et voilà, comme ce jeune homme, et ben elle parle pas. Elle manifeste son enthousiasme avec ses bras, elle s'agite, elle émet des sons, voilà. Et moi, je continue à l'emmener régulièrement assister à des spectacles parce que bah, ma fille, elle adore ça. Mais voilà, je voulais juste signaler qu'en fait, eh ben, faut que les gens se rendent compte que le handicap, il reste tabou en fait en France. Voilà. Et puis, Intouchable a fait plein d'entrées, mais ça n'a rien changé du tout. Voilà, je suis juste écœurée de cette France-là. C'était Alice de Pont-l'Abbé.
Si vous passez par là, vous y serez ici, au repère de là-bas si j'y suis. Là-bas c'est Pont-sur-Yonne, dans le baroque café, près d'un pont qui est sur Yonne, le 21 février. Ce mardi à 20h, nous verrons Gazoland, un film qui fait peur, un truc qui fout les glandes. C'est François Mativet, sortir du nucléaire, qui va nous motiver à ce café repère. Même pas anarchiste, mais très très au courant, fuyons le gazochiste quand il est encore temps.
Je voulais embrasser très fort Esther qui nous a parlé si simplement et avec des petits rires touchants de sa conception du service. Et je voulais simplement lui rappeler cette phrase d'Albert Camus qui dit « Je suis un homme libre, personne ne me sert. » À méditer. Mais surtout, je ne résiste pas à l'envie de raconter rapidement une petite histoire drôle qui m'est arrivée en 1973, où j'ai fait un petit voyage à Budapest avec l'école de journalisme de Strasbourg, donc 1973, et c'était effectivement la baraque la plus gaie du camp, où je me souviens d'avoir vraiment bien rigolé dans les caves de Budapest, bu du bon vin, dansé, écouté de la bonne musique, etc., etc. Mais quand nous sommes arrivés, l'invitation officielle invitée par les jeunes étudiants en journalisme de Budapest, on nous a demandé de chanter la Marseillaise. Alors là, je peux vous dire qu'on a fait tous une drôle de gueule, on s'est regardé un peu consterné, et personne n'avait envie de chanter la Marseillaise, et devant notre hésitation, ils nous ont demandé « Mais alors, vous chantez quoi quand vous défilez ?» Puis on leur a dit « Ben, l'international. Oh » Alors là, c'était eux qui faisaient une tête consternée. Et puis devant leur assistance, comme ils nous recevaient gentiment, on a chanté. Heureusement, il y avait des copains qui avaient les paroles de la Marseillaise anticléricale. Comme quoi, tout est relatif, n'est-ce pas? Et la nostalgie dont parlait Daniel me fait penser à une phrase que j'ai lue récemment dans un excellent livre de Jean-Claude Michéa, qui s'appelle « Le complexe d'Orphée », que je vous recommande d'ailleurs. Des jeunes Espagnols, là, cet été, pendant les manifestations d'indignés, avaient fait une pancarte que je trouve assez croustillante, qui dit « Ah, que la vie était belle contre Franco ». Que la vie était belle contre Franco. Bon, moi, je pourrais dire que la vie était belle contre De Gaulle, vu mon âge. Et puis, peut-être les Hongrois, que la vie était belle contre Kadar, et ainsi de suite. Eh oui, c'est ça un peu la nostalgie. Salut!
Ah, que la vie était belle contre Franco. Bravo, merci pour cette observation et merci pour vos messages. De façon générale, vous avez compris, aujourd'hui on continue la Hongrie en marche arrière. On avance peu à peu. Pourquoi aller trop vite, hein? Voilà, on a le temps. On avance peu à peu dans nos découvertes, dans nos rencontres. Et aujourd'hui, on va rencontrer un intellectuel dissident. Mais ça devrait être un pléonasme, intellectuel dissident. En tous les cas, c'est le cas. Gaspard Miklós Tamás. Il a un parcours très riche. Il a dépassé la soixantaine, disons. Et c'est une des figures de la dissidence, parce que dans ce qu'on a raconté jusque-là, parmi ceux qu'on a rencontrés jusque-là, on peut se dire, ça fait quand même pas beaucoup de place. Y a-t-il une opposition? Y a-t-il une jeunesse qui conteste dans ce pays? Y a-t-il une scène qui essaye de mettre des bâtons dans les roues du char de l'Orbanistan? Eh bien oui, bien sûr, à commencer par celle-ci, celle de Gaspard Miklós Tamás. Et puis, on va rencontrer une jeunesse qui n'a pas envie de se laisser faire, une jeunesse jeune et moins jeune, à l'occasion d'un événement considérable, qui est l'ouverture du premier café repère de la Basse, j'y suis, à Budapest. Et oui, et on était là, on a été invité à l'ouverture de ce premier café repère de la Basse, j'y suis. C'est une idée, une initiative des évidemment des Français qui vivent là-bas, mais aussi des Hongrois qui apprennent le français. D'ailleurs, cette rencontre s'est passée en français et en hongrois. Ça freinait évidemment les débats, mais c'était absolument passionnant. Donc aujourd'hui, dissidence, un mot qui a vraiment une résonance, dissidence, résonance, dans un pays comme celui-là, avec comme mot d'ordre ou de désordre, contre Orban, oui, avec l'étranger, non. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Montalbanais, ce soir c'est notre café repère de Montauban. Mais attention, nous changeons de lieu. À présent, nous nous retrouverons au Lézard Pub, rue Gillac, entre la place nationale et le théâtre, donc au Lézard Pub. Antonio, le patron du bar, va nous accueillir à partir de 20h30 pour discuter des élections présidentielles. Après la brillante série d'émissions sur l'alter-gouvernement, nous parlerons nous aussi de candidats et de programmes. Alors retrouvons-nous ce soir, mardi 21 février, à 20h30 au Lézard Pub, rue Gillac, à Montauban. Salut!
Bonjour les amis des bords de Loire, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, chers AMG. Retrouvons-nous pour le quatrième café repère qui aura lieu au café Le Mathelem à la Varenne, tout près de Nantes, le mardi 21 février. Le thème retenu pour cette quatrième rencontre est « Transformons nos territoires ». À ce titre, interviendra Annie Briand, élue de la commune d'Ancenis, qui nous parlera des développements des territoires agricoles et périurbains. Nous comptons sur vous tous, les amis de la base, si j'y suis, pour animer nos discussions. À mardi prochain, 20h30, café Le Mathelem à la Varenne. Très bonne journée. Au revoir.
Ezt a rendszert szolgálta a posztkommunista párt.
En fait, presque tout le monde, les groupes anticommunistes, les libérales et même les conservatifs, ont servi ce système néolibéral pendant ces 22 ans.
J'ai vu pas seulement l'économie s'écroulant, mais aussi les conséquences morales et politiques de ce tournant libéral, le manque de confiance dans les institutions, des éléments d'aliénation très aigus, la désaffection de la population, le malheur éthique de tout le monde. Alors, vraiment une dissatisfaction très très profonde.
Nous avons réinterprété ces événements de ces 20 dernières années parce que jusque-là, les interprétations se faisaient par rapport à l'interprétation qu'on faisait à l'Ouest. Donc c'était notre propre interprétation qu'on voulait.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao. La Hongrie en marche arrière, contre Orban. Oui, avec l'étranger, non.
C'est l'ouverture du premier repère de là-bas si j'y suis en Europe centrale, en Hongrie. Le sujet de ce soir, en fait, c'est bienvenue en Orbanistan, Orbanistan, l'aube d'une gauche nouvelle. Voilà, c'est un peu le sujet, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé ce soir. Il y a des gens du LMP, qui est un parti politique, il y a des gens qui sont activistes sur un blog sur Internet en Hongrie. Il y a plusieurs personnes qui ont des activités, on va dire, un petit peu parallèles et contre-gouvernementales. Et l'idée de ce lieu-là, ça fait aussi partie de ce même esprit, c'est-à-dire que c'est un lieu, un bar associatif à Budapest, qui n'est pas courant. Donc il n'y a pas de prof, c'est pas le profit qui dirige le bar. Et il y a plusieurs rencontres, il y a souvent des universitaires qui viennent parler de sujets, etc. Et voilà, nous ce qu'on voudrait, c'est on jette une petite graine comme ça, on espère que ça va pousser, en se disant que si les gens réfléchissent ensemble, c'est peut-être qu'ils seront un petit peu moins manipulables, surtout dans un pays où les médias sont quand même un petit peu cadenassés. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce soir. Alors moi, je m'appelle Cédric. Moi, ma femme est hongroise et on habite là. On habite à côté de Budapest, dans un petit village. Et moi, je suis éducateur. Je m'occupe d'enfants, voilà, qui ont des problèmes sociaux. Et ça, c'était mon travail en France. Et en Hongrie, je suis essentiellement prof de français. Et j'essaie de me débrouiller, voilà, comme ça.
Et l'opposition, la dissidence essaye de se débrouiller aussi comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile actuellement en Hongrie de constituer une force d'opposition, une force critique par rapport, ou même éventuellement un parti politique, pourquoi pas, par rapport au rouleau compresseur de l'Orbanistan qui a une véritable force et des méthodes extrêmement musclées. Alors aujourd'hui, je le disais, on va rencontrer Gaspard Miklós Tamás, qui est une figure très consultée ces temps derniers, figure de la dissidence. Il va nous raconter un peu son parcours. Le problème qu'il y a dans la formule qui circule, qui est assez provocante quand on est étranger et qu'on arrive en Hongrie, qui est contre Orban, oui, avec l'étranger, non, ça c'est la formule de la dissidence. Contre Orban, oui, ben on est d'accord pour contester la politique d'Orban. Avec l'étranger, non, quand on est étranger, on dit, ben alors attendez, on va rentrer en France. Alors c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire que il y a une susceptibilité là, alors à la fois une susceptibilité historique, l'impression d'être un peu colonisé, dominé par l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, donneuse de leçons. Mais il y a aussi que dans l'indignation suscitée par l'élection de Viktor Orban et de toutes les mesures et politiques qu'il a mises en place, il y a que cette indignation, c'est aussi c'est l'indignation de l'Union européenne et du FMI face aux mesures liberticides mises en place par Viktor Orban. Mais est-ce qu'il y a une indignation qu'on ne peut que partager, mais on oublie de dire que cette indignation fait suite à des mesures, on l'a évoqué hier, telles que la nationalisation des taux de pension, des fonds de pension, les taxes sur les banques étrangères, sur les chaînes de grande distribution qui sont plutôt françaises, autant de choses qui ont soulevé la colère des cercles financiers, mais qui se sont pudiquement limités à dénoncer les atteintes aux valeurs démocratiques. Et le problème, c'est que l'intervention des institutions financières ou l'Union européenne n'est pas démocratique. Ces institutions-là ne sont pas directement élues. Le FMI et la Commission européenne ne sont pas directement élues. Contrecarrer un pouvoir antidémocratique par des institutions aussi peu démocratiques, ça peut poser un problème. En tous les cas, c'est quelque chose qui n'échappe pas à nos amis hongrois. Et voilà pourquoi on trouve cette phrase avec l'étranger. Non. Mieux comprendre cette crise, mieux comprendre la Hongrie d'aujourd'hui, c'est d'abord mieux comprendre évidemment l'Europe et s'interroger par jeu de miroir sur nous-mêmes. C'est jusqu'à 16h. C'est la basse édition.
Voici Dokman. C'est une star de la scène gangsta rap en Hongrie. Dans ce pays de 10 millions d'habitants, il a vendu plus de 500 000 albums.
Euronews, 27 janvier 2012.
Pour mener à bien son combat, il vient tous les jours s'entraîner dans ce club de boxe. Quand il frappe le punching ball, Dokman pense souvent à Viktor Orban, le premier ministre du gouvernement populiste de droite hongrois. La politique est très présente dans la musique de Dokman. Il y a quelques jours, Dokman a écrit un nouveau rap dans lequel il s'en prend à Viktor Orban, non pas avec ses poings, mais avec ses mots.
Mindig több, mint ami járna, bozd meg!
Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkat a küzdellenséggel.
Bazd meg a frankot és bazd meg az eurót. Bazd meg, hogy féled a hónapot. Bazd meg a parkolót és a cédulát. Bazd meg, hogy mindenért bírság a jutalom, mert ezek lehúznak. Bazd meg, bazd meg öcsém a minimál béret. Bazd meg a rendőrt és a bűnözőt. Egy füst alatt baszom meg mind a kettőt.
J'étais un dissident, bien sûr, sur la liste noire, chômeur, etc., comme il se doit. Avant 89, j'ai participé dans ces mouvements dissidents de résistance démocratique. Et alors, ça a coïncidé avec, disons, un parcours politique et idéologique de la gauche à la droite, d'un libertarisme de gauche à un libertarisme de droite, qui n'a pas quand même beaucoup duré. Parce que j'étais un député dans le premier parlement, orateur dans les grandes assemblées en 88-89. Et alors, avec toute la population, mais à la différence des élites, j'étais bien sûr déçu, et ça, comme intellectuel, ça m'a fait quand même d'essayer d'analyser qu'est-ce qui se passait. Alors j'ai résigné mon siège de député, je ne me suis pas porté candidat depuis, Et alors, je suis aussi politiquement retourné à la gauche. Alors, comme un boomerang. De gauche à droite et retour. Et alors, je voudrais me considérer marxiste aujourd'hui. Et c'est un parcours que ma génération des dissidents ne l'ont pas fait. La majorité, ils ont resté libéraux. Et moi, non. Alors, il y a une différence. Une certaine différence. Alors, bien sûr, il y a une solidarité en ce qui concerne le passé, mais aucune en ce qui concerne le présent.
Voilà, Gaspard Miklós-Tamás, un parcours en forme de boomerang, un dissident systématique, encore qu'il vient de nous le dire, il a cru lui aussi, c'est dire que, voilà, il fallait accompagner, il fallait s'engager. Dans les années 90, dans le mouvement néolibéral, d'ouverture, etc. Et puis, il en est revenu comme pas mal, quand même, pas mal de Hongrois, sauf que lui tire d'autres conclusions et propose d'autres analyses. Et dissident, ça fait un bout de temps quand même que ce genre de dissident, en tous les cas celui-là, Gaspard, se heurte à l'autoritarisme de Viktor Orban. Parce que là, j'ai sous les yeux un article de juillet 2001, donc il y a bientôt 11 ans, dans Le Monde diplomatique, où on présentait Viktor Orban comme l'un des dissidents soumis aux pressions politiques du gouvernement, le courant nationaliste qui flirte avec les mouvements d'extrême droite de M. Orban. Donc on ne peut pas dire que la venue au pouvoir de Viktor Orban a été une surprise pour tout le monde, et certainement pas pour ceux qui s'opposent à lui. Alors, quel est le regard que, aujourd'hui, Gaspard Miklós-Tamás porte sur les forces en présence?
Il y a seulement des droites, deux sortes de droites. Il y a la droite néolibérale nationale et la soi-disant gauche néolibérale globaliste, bon, mondialiste. Alors, les différences en ce qui concerne la pratique quotidienne des citoyens, c'est pas tellement grande. Bien sûr, la pratique politique est différente. Bien sûr, je ne veux pas banaliser ou trivialiser la pratique autoritaire du gouvernement, sans doute, avec des épurations politiques, avec une hiérarchie très rigide dans l'État et tout ça. C'est vrai. Alors, une partie de la critique libérale et européenne est justifiée. Mais en ce qui concerne les matières économiques et sociales, il n'y a pas de grande différence. Alors, le gouvernement Orban propose une politique d'austérité d'une certaine façon. L'opposition soi-disant socialiste et écologiste propose une politique d'austérité d'une autre façon. Et l'FMI et l'Union européenne, une politique d'austérité d'une troisième façon. Alors, il faut choisir. Je choisis aucune. Je choisis quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, je choisirai une politique de solidarité, de relance, et une politique qui comprend que c'est pas possible de reconstruire un plein emploi. Alors, il faut réengager l'État de prendre le soin d'une majorité qui ne travaillera jamais. Et c'est un problème mondial. Alors, il faut comprendre que l'évolution de la technologie et l'évolution même de l'économie marchande est telle que les tâches et la mission de l'État devra être redéfinies dans un sens biopolitique, en contresens de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors il faut choisir les couches populaires, les populations dont on ne prend plus la responsabilité sociale. Retraités, fonctionnaires, malades, étudiants, alors des couches non productives, non actives, comme on définit à la droite maintenant, ils devraient exister comme ils veulent. Alors, il n'y a pas une responsabilité sociale universelle non plus. Alors, il faut recréer cette responsabilité universelle. Et alors, il faut redéfinir un État démocratique qui est vraiment démocratique au sens d'Aristote. Aristote a défini quand même d'une manière assez brutale la démocratie comme le pouvoir des pauvres sur les riches. Mmh. Alors, voilà. Un État plébéien qui prend des responsabilités sociales d'une telle façon et des biopolitiques d'une telle façon devra être quand même le but immédiat des mouvements sociaux et des citoyens partout. Et j'en suis convaincu parce que condamner un tiers de la population mondiale à la faim, ça va plus.
Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est l'égalité des chances. Le travail, c'est la promotion sociale. Le travail, c'est le respect, c'est la dignité, c'est la citoyenneté.
Spot de campagne de Nicolas Sarkozy, 2007.
Je pense aux employés, aux techniciens, aux ingénieurs, aux cadres, aux infirmières, aux professeurs, aux médecins, aux paysans, aux artisans, à tous ceux qui aiment leur métier et qui en sont fiers. Ceux d'entre vous qui voudront avoir des meilleurs salaires en travaillant plus, pourquoi les empêcher de le faire?
Quelqu'un qui est au SMIC, qui travaillerait chaque jour 45 minutes de plus, on peut lui donner 15% de salaire en plus.
Voilà l'espérance qu'on va pouvoir faire renaître.
Alors, qu'est-ce que vous faites du travail là-dedans?
Je crois que le travail comme modèle de socialisation qui était central pendant le développement capitaliste est fini. Et alors, ou bien on va redistribuer le travail, ça sera une condition humaine très heureuse, où tout le monde aura du travail, mais on travaillera 4 heures par jour, 3 jours par semaine, ça sera parfaitement possible, s'il n'y aura bien sûr la limite absolue, qui est bien sûr le profit, parce que ça coûtera bien sûr très cher. Une résocialisation du travail et du capital, bien sûr, c'est une chose assez chère. Il faudra des sacrifices sur le capital par un État progressiste et actif qui n'existe pas. Autrement, il y aura une scission de toute société moderne en deux parties. Alors, d'une part, le continuum capital-travail. Alors, les actifs qui produisent du capital, de l'accumulation, du profit, du plus-value, etc. Et de l'autre part, les gens qui sont exclus de cette continuité capital-travail. Il y avait avant le conflit travail et capital, et maintenant, c'est le capitalisme des travailleurs et des bourgeois, et de l'autre part, les retraités, les malades, les immigrés, les inactifs, les intellectuels, etc., 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 alors qui sont condamnés à une mort civique, à une mort sociale. Quand M. Sarkozy parle de la France qui se lève tôt, hein, alors il prétend que le travail, c'est un devoir moral, et un devoir moral que la majorité est incapable de remplir, c'est pas un devoir, c'est une coercition, quoi. Alors c'est la politique partout. Alors, il y a des variantes plus brutales, comme en Hongrie, des variantes un peu plus intelligentes et plus subtiles, plus cyniques, comme en Occident. Mais quand même, c'est la même chose. Alors, il faut utiliser les instruments étatiques qui sont quand même à notre disposition si on utilise la politique démocratique, même électorale, habilement et intelligemment. C'est quand même, quoique bien sûr ça a perdu toute sa crédibilité, etc., etc., et moi je ne suis pas enthousiaste, mais quand même on peut utiliser l'État pour créer une société égale, mais d'une égalité nouvelle. Il faut faire une extension, un élargissement d'une vie acceptable pour tous, aussi aux gens qui maintenant sont sans droit et sans pouvoir social parce qu'ils ne participent pas dans le capitalisme. Alors il faut élargir cet espace avec une nouvelle biopolitique égalitaire et plébéienne. Par exemple, le revenu minimum obligatoire pour tous, par exemple, sera une voie pour ça. Alors faire un divorce entre la vie et le travail. Tout être humain doit être un citoyen, et tout citoyen devra avoir un droit pour survivre. Pour ça, on devra, je crois, recréer la gauche. Parce que pour le moment, la gauche réformiste représente le salariat, et surtout de col blanc, des fonctionnaires, des instituteurs, etc., 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 comme toujours, les médecins, etc. Mais les vraies victimes, les vrais misérables, les vrais malheureux, sont les gens qui sont exclus du capital. Alors, maintenant, nous sommes dans une situation où être exploité c'est une situation à envier. Ah, mais c'est insupportable, quoi. Alors, il faut changer tout ça. Et je crois que les nouveaux mouvements, quoique bien vaguement et instinctivement, ont un sens pour ça. Alors, les mouvements Occupy, etc., etc., ils ont un sens, une compréhension, pour le moment instinctive, intuitive, pas très théorique.
C'est pas... parlez de Occupy Wall Street
Oui. Et les mouvements similaires, des indignés, etc., etc. Bien sûr qu'ils ne constituent pas un programme politique à la manière du manifeste communiste, mais quand même, il y a des sentiments politiques que je trouve sympathique et prometteur.
On a toujours imaginé la révolution comme un bouleversement instantané où une société est détruite et une autre mise à sa place.
France Culture, André Gorce, 1979.
Nous savons que c'est jamais comme ça que ça se passe. S'il y a un processus révolutionnaire brusque, la société mise en place portera en elle beaucoup des perversions de celles qu'elle a remplacées. Si la destruction des pouvoirs de domination ne se font pas dans la société qui est destinée à mourir, celle qui la remplacera, après destruction violente de cette société-ci, ne voudra pas mieux. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'ai plus employé le terme de classe ouvrière, c'est que celle-ci n'a pas la même constitution qu'elle avait à l'époque de l'industrie taylorienne. Nous ne savons plus où commence et où s'arrête la couche des producteurs. Mais nous savons où commence et où s'arrête l'effet de domination.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de parler comme André Gorce, par exemple ?
Par exemple, oui. C'est une des inspirations, bien sûr.
C'est ça.
Vous continuez, adieu au prolétariat.
La même tristesse. On dit ses adieux avec la même tristesse que lui. Ah oui. Oui, je l'aime bien. Et alors, il y en a aussi des autres. Par exemple, l'école de critique de la valeur en Allemagne, qu'on fait mieux connue maintenant même en France. Il y a un blog, Palimpsao, qui publie les œuvres de cette école. Alors, il y en a des gens, je ne suis pas le seul, de considérer tout ça. Mais bien sûr, c'est ma variante, mais bien sûr, il y en a toute une génération qui a compris que la gauche aussi devra être changée pour confronter ces nouvelles réalités qui nous conduisent vers une nouvelle variante de l'autoritarisme. Alors, quoique je suis un ennemi, par exemple, de ce gouvernement hongrois, je comprends pourquoi il est en existence. Parce que si, comme ce gouvernement-là, on défend la classe moyenne, la bourgeoisie nationale, contre la masse des pauvres indigents affamés, alors il nous faut un État autoritaire, un État policier, un État hiérarchique très fort. On voit ça partout, bien sûr. Alors, les États est-européens sont faibles. Alors, le changement vers un État autoritaire est plus voyant et plus
caricatural.
Plus caricatural. Alors, en France, par exemple, on peut changer le système judiciaire beaucoup plus discrètement, comme on a vu en France. C'est le même processus qu'on voit partout. Le contrôle de la vie privée qui a lieu maintenant en Angleterre, quand même un pays classique du libéralisme, où il y avait vraiment une frontière très fixe entre la vie privée, qui était abandonnée, bien sûr, au marché, mais quand même sans immixtion étatique, et maintenant qu'il y a des couvre-feux pour des jeunes à Londres. Alors, c'est pas seulement la Hongrie ou la Roumanie, etc., ou la Russie, où on observe tel processus autoritaire, mais qui sont plus cachés, plus voilés, plus graduels en Occident, et bien sûr plus brutal ici. Et ici, on utilise moins de manipulation et beaucoup plus de coercition, etc., des épurations politiques en masse, des méthodes, démodées. Mais l'essence politique et sociale est la même.
C'est ça qui est intéressant dans un pays comme la Hongrie, comme on avait vu il y a quelques années en Amérique latine, c'est que ça fait partie de ces pays où voilà, on n'a pas mis le capot, on voit fonctionner le moteur. On voit fonctionner le moteur. Et ça nous renseigne sur nous-mêmes, parce qu'ici, on est le pays du parfum, on est le pays de la mode, on est le pays, on sait habiller et déguiser les choses et les masquer. En tout cas, pour Gaspard Miklós Tamás, vous avez vu qu'il s'inscrit dans un courant de pensée, de réflexion philosophique et politique, qui considère que la réduction du temps de travail n'est pas du tout un choix politique, c'est une évidence pour ces penseurs-là, pour ces intellectuels-là, et pas seulement pour les intellectuels-là. Tous ne retravailleront pas, la masse totale de travail ne permettrait pas, en mettant les choses au mieux, de retravailler, que tout le monde soit au travail. Et puis, la question de quel boulot. Alors, d'où ces idées d'opposition, de nouvelle opposition, ou d'un redécoupage entre dominants et dominés, et puis des solutions qui seront des solutions évidemment politiques, mises en place par l'État, mais dans une perspective politique nouvelle. Et bien sûr que derrière tout ce qui se dit là, il y a la figure et la figure terrible en ce moment des tziganes, des Roms.
Les Roms sont les symboles des gens improductifs, qui ne travaillent pas, qui sont dangereuses, les nouvelles classes dangereuses, qui sont bien sûr, ont la couleur un peu plus foncée que les autres, etc., etc., et qui sont les populations, dans l'imaginaire populaire, c'est les populations criminelles, les populations dangereuses, les populations qui veulent exister en bénéficiant de l'aide sociale, etc., etc. Bon, ça ne correspond à aucune réalité, mais c'est le mythe très puissant, comme le mythe des immigrés musulmans en Occident. Ça joue le même rôle politique et social. C'est la soupape, bien sûr, pour le désespoir des couches populaires qui se considèrent perdantes, mais qui ont encore un peu d'espoir. Et alors, ils disent que la cause de notre détresse, ce sont les paresseux, les fainéants qui causent les problèmes dans le système social, etc. etc. Bon, c'est le cas du bouc émissaire, très classique, avec une différence intéressante, parce que avant, il y avait ce discours moraliste que les Roms et les autres couches qui ne participent pas aux procédures normales de la société devraient se changer, s'améliorer. Dans la presse de droite, en Hongrois, ils les appellent déchets génétiques. Les Roms, tout simplement, déchets génétiques. Mais c'est accepté par une opinion qui vit un désespoir, une détresse sociale et la peur. Alors c'est une expression d'une détresse sociale très grande. Alors bien sûr je suis opposé au racisme, mais il faut quand même comprendre pourquoi. C'est la peur.
On est en train de manifester parce que nous sommes des vrais Hongrois et nous on n'a pas besoin de l'Union Européenne.
Dit-il avec une bière à la main, quand même, hein, bien.
Dans un village Tatar-Szentgyörgy, il y avait un assassinat de deux Hongrois qui ont été assassinés par les tziganes locales. Et personne n'en parle. Le gouvernement protège les tziganes.
Il y a quelques ans, il y avait des enfants qui ont été kidnappés par les Roms, torturés, violés, après cuire et manger.
C'est les tziganes cannibales. On en est aux tziganes cannibales. Encore un petit peu.
Sabes, mares, me cago.
De la dissidence. En Hongrie, il y a bien sûr une dissidence, et l'une des figures, l'une des voix de cette dissidence, c'est Gaspard Miklós Tamás, l'une des voix, qui est philosophe, qui est écrivain, qui est journaliste, qui a été beaucoup consulté ces temps-ci, ben, voilà, tout simplement parce qu'il est francophone. Mais c'est pas seulement les Français qui l'interrogent, c'est il a une place prépondérante dans son pays. Il analyse là ce qui est, selon lui, la politique de son adversaire, Viktor Orban.
Dans le cas du système Orban, nous avons un système anti-égalitaire radical, avec taux unique dans les impôts, etc., oui. etc. Mais c'est un système, comme le système du bas-empire, c'est un système à l'avantage de la classe moyenne. Certainement un peu contre les multinationales, un peu, très peu, mais certainement contre l'underclass, contre le subprolétariat, contre les chômeurs, contre les travailleurs, etc., etc. C'est pour la classe moyenne jeune, blanche, catho, mâle. Alors, c'est très moderne, c'est très moderne, ça n'a rien à faire avec le passé. Bien sûr, il y a un symbolique, alors on nomme le nouveau programme du gouvernement en l'agriculture d'après l'ancien ministre Daragné, qui était le plus grand ennemi de la paysannerie hongroise, haï par tout le peuple hongrois jadis. C'est vraiment la réaction, alors, pure, qui a introduit la punition corporelle dans le service d'agriculture au commencement, au début du XXe siècle. Alors, c'était vraiment... Bon, bien sûr, il y a cette symbolisme réac et catho, ça existe, mais l'essence n'est pas ça. L'essence, c'est une politique en faveur des couches actives bourgeoises, moyennes, nationalistes, etc., etc. Alors, c'est une politique... traditionnel de gauche, un peu, avec parfois des accents poujadistes.
Qui prend des mesures, ou qui envisage de prendre des mesures, qui sont très proches de celles qui sont préconisées par les altermondialistes.
C'est pas vrai. Toutes ces mesures, les impôts spéciaux contre les banques, etc., ont bénéficié aux classes moyennes supérieures. Quand on a converti, par exemple, ces dettes en devises étrangères, ça peut servir seulement les gens qui peuvent payer la somme entière de leurs dettes. Qui sont ça? 3% des endettés, les plus riches. Alors, cette mesure, c'est pas en faveur nécessairement de la grande bourgeoisie, que de toute façon, où est la grande bourgeoisie hongroise? En étranger. Ça n'existe pas ici. Alors bon, la classe moyenne est le bénéficiaire de toutes ces politiques. Alors, il n'y a pas un transfert de haut en bas, comme on fait dans ces régimes soi-disant populistes en Amérique latine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut, par exemple, montrer aux Est-Européens que si un système bourgeois marchand comme celui d'aujourd'hui ne parvient pas, par exemple, à recréer une dixième de la culture nationale qui existait pendant le socialisme réel, c'est quand même un problème. Comment c'est possible qu'il n'y a pas de livres, qu'il n'y a pas de bibliothèque? Quand j'étais limogé de mon poste à l'université de Budapest en 80 ans, j'étais allé travailler comme bibliothécaire dans un quartier ouvrier. C'était le Csepel, la Rouge, voilà.
Il y avait, à cette époque-là, dans cet arrondissement, deux chaînes de bibliothèques, la bibliothèque municipale, avec 5 succursales, et la bibliothèque des usines métallurgiques avec, je crois, 27. Maintenant, il y a une. Et la population est la même. Et alors, l'importance de la culture, c'est un exemple seulement, a été tellement diminuée que maintenant, la plus grande source des littératures nationales pour les élèves sont les antiquariats. Il faut maintenant acheter des livres publiés pendant la République populaire hongroise parce qu'il n'y a pas d'espoir que ces rééditions auront lieu dans les décennies qui viennent. Et etc., etc. C'est un seul exemple, mais quand même compréhensible. Alors je crois qu'on peut montrer qu'en ce qui concerne la santé, l'éducation, la culture, la maintenance urbaine, etc., etc., on peut montrer qu'on pourra quand même enseigner et apprendre les leçons du passé. Le socialisme réel était franchement supérieur à l'état présent des choses. Je suis toujours opposé au socialisme réel, mais quand même, ça a été initié quand même par le mouvement ouvrier, avec ses traditions d'apprentissage, d'éducation adulte, d'une prédilection pour la science. Même la tradition positiviste a quelques valeurs. Alors, oui, oui, il y en a des choses qu'on devra regarder de nouveau.
Vous avez... comme philosophe et comme aussi comme politique, puisque vous avez été député, vous avez participé de cette révolution conservatrice néolibérale au début des années 90, c'est ça
que je regrette. Oui, bien sûr, je me suis trompé et que j'ai reconnu publiquement ici en Hongrie, tout le monde le connaît, que j'ai dit que le tournant démocratique a échoué. Nos grands espoirs de 89 sont devenus vains et alors c'est la défaite.
À partir de quand vous avez réalisé que ça allait dans le mur ?
Vers la fin des années 90. Parce que j'ai vu pas seulement l'économie s'écroulant, mais aussi les conséquences morales et politiques de ce tournant libéral, le manque de confiance dans les institutions, les éléments d'aliénation très aigus, la désaffection de la population... le malheur éthique de tout le monde. Alors, vraiment une dissatisfaction très, très profonde que j'ai partagée. Alors, mon parcours n'est pas différent de la majorité. On a fait ensemble ce parcours, mais ce qui est un peu plus rare dans mon cas, être un intellectuel, de faire le même parcours que le peuple.
Moi aussi, les intellectuels sont un petit peu en arrière. Nama na shavo, lasho tavus baktalo, mo shavo, temera, sotekera. Je duji, žene nama na shavo, dosta juke trajo, kere najmaro, najles čikano, čikito najles čikito kade, raj sa I kercegon, dosta pulo dron. Trubu je kvorba, da mage lasho, da pela mage, da avela roma na shavo, da nada raba še, svoja vala jaka lokalo. Roma na shavo, lasho tavus baktalo, talo. Trubu je kvorba, da mage lasho, trubu je kvorba, da mage lasho, trubu je kvorba.
Allô.
Ça va, non? On s'entend?
Ouais, allez, sans micro.
Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être venus. Voilà. Juste en deux mots, c'est l'ouverture du repère de Là-bas, si j'y suis. Le premier en Europe centrale, à Budapest, entre guillemets, j'ai envie de dire, si on réfléchit ensemble à certains sujets d'actualité ou certains sujets de société, peut-être qu'on sera un petit peu moins manipulable.
Alors le débat a été nommé l'impact positif de l'urban islam, l'aube de nouvelle gauche. Alors je vais dire tout ça en français, après je vais traduire en anglais. Parce qu'en fait, il n'y a même pas 2 ans que M. Orban a gagné 2/3 au Parlement. Et depuis, on a vécu une période terrible, difficile, qu'on ne pouvait jamais imaginer avant. Des changements graves politiquement et socialement. Mais cette fois, je vous propose de focaliser sur la naissance, l'effervescence même de Nouvelle Gauche, qui s'identifie contre ce régime conservatif et autoritaire, mais qui s'identifie aussi contre le régime gauche libéral qui était avant pendant 8 ans et qui était le servant de Capital Global.
Voilà, à l'ouverture du premier café repère en Europe centrale. C'est touchant, c'est émouvant et c'est intéressant et c'est passionnant parce que les gens qui sont là sont des Français qui vivent depuis longtemps, parfois à Budapest, d'autres qui sont de passage ou qui travaillent pour quelque temps, et puis beaucoup de Budapestois, voilà, je pense qu'on dit comme ça, en tout cas de Hongrois, qui discutent, qui essayent de se prendre la tête et de voir quelle opposition, quelle dissidence par rapport au pouvoir autoritaire actuel.
En fait, avec l'effondrement du MSP, qui était un parti complètement corrompu, qui s'appelait encore socialiste, qui a été néolibéral et qui a imposé plan d'austérité sur plan d'austérité, et qui, à la suite de la diffusion publique d'un enregistrement fait à son insu de l'ancien Premier ministre Durkheim, où il disait « on a menti pour être élu », ça a été tout le système politique institutionnel, tous les partis politiques officiels hongrois qui ont été discrédités. Et en 2010, on a vu pour la première fois depuis le changement de régime l'arrivée au Parlement de 2 nouveaux partis. LMP, une autre politique est possible. C'est un parti qu'on peut, dans une vision occidentale, dire c'est un parti écologiste de gauche, mais qui ne se revendique pas de gauche en Hongrie du fait que la gauche a été totalement discréditée. Et l'autre parti qui rentre au Parlement, c'est l'extrême droite, qui arrive avec à la fois un discours de haine, un discours complètement décomplexé, antisémite, anti-rome, anti-élite, et en même temps un discours qui reprend beaucoup de choses à l'altermondialisme qu'on peut entendre plus dans les mouvements de gauche. Et en parallèle de ça, on a vu l'émergence aussi, depuis l'arrivée d'Orban avec les pleins pouvoirs au gouvernement, de nouveaux mouvements citoyens, d'une société civile.
On parle là, donc tous nos amis viennent de parler.
Voilà, hein, c'est ça.
Les chercheurs, des mouvements divers et variés, y compris des ouvertures de bistrots, de lieux alternatifs, qui dans leur fonctionnement même ressembleront à ce qui se passe à Berlin depuis 30 ans, c'est-à-dire qui auront une gestion, une autogestion, et qui auront pour but d'être des foyers de réflexion, de véritables alternatives politiques.
Exactement. Et en fait, on a vu arriver des mouvements qui n'existaient pas de manière très forte en Hongrie avant toute cette dérive politique. Des mouvements de désobéissance civile, des mouvements qui s'intéressent à l'autogestion, des mouvements qui réfléchissent à ces 20 dernières années, des mouvements qui réfléchissent à l'anticapitalisme, qui était quelque chose de très difficile dans la région, puisque l'anticapitalisme était immédiatement rattaché au système socialiste, au communisme de ces 50 dernières années, enfin des 50 années de la pré-Seconde Guerre mondiale. Et il y a toute une effervescence avec plein de, je dirais, la naissance d'une véritable société civile, et qui est actuellement en train de se chercher. Donc c'est un peu le but de la discussion ce soir, d'essayer de présenter les différentes tendances qu'il peut y avoir, les différentes réflexions qu'il peut y avoir, et de savoir comment, de penser, comment on peut reconstruire une opposition progressiste, une opposition dans une logique de justice sociale, peut-être de gauche. De gauche fondamentalement dans le sens occidental, peut-être qu'il faut s'affirmer, renouveler, réhabiliter la gauche en Hongrie, la gauche qui a été totalement discréditée. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui des jeunes qui sont là ce soir, c'est de savoir comment arriver à reconstruire tout ça. Et surtout, je pense qu'un des grands enjeux, une des grandes difficultés en Hongrie aujourd'hui, c'est d'arriver à redonner confiance. Arriver à redonner confiance à la population hongroise entre elles, c'est-à-dire que les gens retrouvent la confiance, recréer des liens dans la société entre les personnes pour recréer la confiance, et surtout recréer la confiance en des mouvements politiques, voire dans les institutions.
Voilà, merci à tous. Le repère de là-bas, si j'y suis, de Budapest. Vous avez des nouvelles de ce repère sur le site Oula la.org, oula-la.org, c'est un magazine en français qui traite des sujets de hongrois avec beaucoup d'efficacité et qui vous parle du repère de la base si j'y suis, ce qui s'y passe, ce qu'il devient. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, la-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Nicolas Slimani, Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base JCO au 01 56 40 37 37. Je n'oublie pas de remercier Vincent Zabo, Cédric, Andras du repère de Budapest. Le bistrot s'appelle le Frisco. Allez faire un tour à Budapest, hein, c'est pas loin et c'est très hospitalier. Il y a des tas d'endroits où on peut s'amuser le soir et même jusqu'à des heures avancées de la nuit.
Mais comment tu fais ? T'as les deux bras dans le plâtre et tu grossis comme un jeune goret.
Avec la Matmut, j'ai une aide à domicile pour préparer mes repas.
Alors, pour bien manger chez soi, il faut être assuré à la Matmut.
Et avoir les bras cassés. Ah.
Selon les conditions définies au contrat mutualiste de la Matmut.
J'ai arrêté les baguettes.
Eh oui, il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Yann Gallic. Salut.
Notre système de santé, souvent présenté comme le meilleur de la planète, est malade selon Médecins du Monde. Et ce sont les précaires qui en souffrent le plus. L'association a aujourd'hui du mal à assurer ses missions auprès des patients les plus fragiles. Avec des chiffres inquiétants, 2 enfants sur 3 soignés par Médecins du Monde ne sont pas à jour dans leur vaccination. Et 70% des femmes enceintes n'ont pas accès aux soins prénataux. L'association lance donc un appel aux candidats à la présidentielle pour répondre à cette urgence sanitaire. Le procès en appel de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse s'est ouvert il y a déjà 3 mois. Les avocats de la défense ont boycotté l'audience du jour car ils s'estiment injuriés par l'un des magistrats de la cour qui leur avait demandé de se taire. Thierry Desmarais, le PDG du groupe Total à l'époque du drame, est revenu à la barre aujourd'hui. Les victimes veulent qu'il soit tenu pour responsable de la catastrophe à titre personnel. Nicolas Sarkozy multiplie les déplacements depuis l'annonce de sa candidature après une visite matinale au marché de Rungis. Le président de la République a rejoint la Charente-Maritime où il a visité une usine Alstom à Étré et fait de nouvelles promesses. Nicolas Sarkozy s'engage à tout faire pour relancer l'activité sidérurgique en Moselle. Le site d'ArcelorMittal à Florange est arrêté depuis 5 mois. Des dizaines d'ouvriers occupent les locaux de la direction. Ils demandent le redémarrage des 2 hauts fourneaux. Le plan d'aide à la Grèce peut encore dérailler et la dette grecque exploser, selon un rapport confidentiel rédigé par des experts de l'Union européenne, du FMI et de la Banque centrale européenne. Ce document daté du 15 février remet en cause la capacité d'Athènes à assainir ses finances publiques. Selon ces experts, il faudra encore une aide supplémentaire pour que la Grèce ramène sa dette à 120% du PIB d'ici 2020. En attendant, les Grecs, déjà au bord du gouffre, doivent se préparer à une nouvelle cure d'austérité après le plan de sauvetage de 130 milliards d'euros adopté cette nuit à Bruxelles. Les Yéménites, eux, votent pour élire leur nouveau président. Ce scrutin fait partie du processus de transition politique engagé au Yémen pour une période de 2 ans. Le document signé en novembre dernier prévoyait une élection dans les 3 mois et un candidat unique pour l'opposition et le régime, un candidat de consensus. C'est l'actuel vice-président qui va donc succéder à Ali Abdallah Saleh qui était au pouvoir depuis 33 ans. Enfin, un tableau à 80 millions de dollars. C'est une version du CRI, le célèbre tableau d'Edvard Munch, le peintre norvégien. Il sera mis aux enchères le 2 mai prochain à New York. Avis à nos auditeurs les plus fortunés.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous vous attendons nombreux pour des enregistrements en public, aujourd'hui mardi dans le Lot-et-Garonne à Pendagenais à 19h et demain dans le Lot, demain mercredi à Montcuq. Rendez-vous là à 18h. À très bientôt.
Cette semaine, dans Le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Soko, Daniel Darc,
je suis née en mai, c'est moi le printemps, elle s'en fout, elle vit seule,
et Loan.
Avec la participation exceptionnelle de Christophe.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Plus vieux matin de nuit blanche. France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter et c'est une excellente idée. Il est 16h03. Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Yann. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci à vous qui avez regardé et écouté les Victoires de la Musique Classique. Merci pour vos très gentils messages par Internet. Et puis, moi j'étais aussi très heureux, comme je l'ai dit, de rencontrer, d'entendre de très grands artistes déjà célèbres. Et aussi, et peut-être surtout finalement, que les Victoires révèlent des jeunes qui ont déjà beaucoup de talent, même s'ils n'ont pas encore toute la notoriété de leurs aînés. Mais c'est ça l'intéressant, c'est la transmission. Il y en a un qui a beaucoup transmis, c'est Rostropovitch. Il nous a quittés il y a 5 ans, l'anniversaire exact, ce sera le 27 avril de là qui vient, de cette année. Il était né, en fait, le 27 mars 27, et il a eu l'extrême souci de perfection de mourir à 80 ans, plus un mois exactement. Vraiment, pour qu'on s'habitue à son absence, on ne s'y habitue toujours pas, d'ailleurs. Et heureusement que les disques paraissent et reparaissent, puisque Decca consacre, pour cet anniversaire, un coffret aux enregistrements publiés dans cette firme par Mstislav Rostropovitch. Alors, évidemment, la vie passe, on fait tout ce qu'on doit faire, en général, et Schumann l'a bien compris, qui a titré sa première pièce dans le style populaire Vanitas Vanitatum, vanité des vanités, et tout n'est que vanité, on le sait, mais enfin, ça vaut quand même la peine de faire ce qu'on a à faire durant le temps qui nous est imparti. Et il a rajouté mit humor. Alors, en allemand, humor, c'est évidemment humour, mais aussi humeur. Il y a un peu des deux dans cette première pièce, interprétée par Rostropovitch, avec le génial compositeur Benjamin Britten au piano. La première des cinq pièces dans le style populaire de Robert Schumann, Vanitas Vanitatum, et avec humeur et humour, mit humor en allemand, le grand Rostropovitch, le très regretté Rostropovitch, 5 ans déjà.